France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un incident de séance qui fait parler.
Ah oui, un conseiller régional qui utilise le terme nazi d'Untermensch, qui veut dire sous-homme, d'autres qui brandissent des pancartes où l'on peut lire violeur étranger dehors, séance du conseil régional mouvementé à Besançon. La présidente PS porte plainte. Le parti d'extrême droite pour l'instant ne prend pas de sanctions. Récit dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
Des centaines de personnes rendent hommage à Chemseddine une semaine après la mort de l'adolescent. Marche blanche à Viry-Châtillon cet après-midi. La tournée de Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, veut convaincre ses partenaires européens de la nécessité de reconnaître un État palestinien. À un peu plus de 100 jours de l'ouverture, France Inter vous dévoile son dispositif pour les Jeux Olympiques de Paris.
Et on en parle avec la directrice des sports de Radio France, Nathalie Yaneta, invitée de ce journal.
Et puis PLK et Web Renoir au menu du top musique de Mathieu Culeron à la fin de ce journal.
Ensuite, à 18h20, une semaine en France avec la professeure de médecine Claire Mounier-Veillé qui a fait du cœur des femmes le combat de sa vie. Elle a même lancé un bus qui sillonne la France pour faire de la prévention. Au téléphone sonne, question sur cette nouvelle réforme annoncée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Stanislas Guérini disait cette semaine qu'il voulait faire tomber le tabou du licenciement dans la fonction publique. Il veut également favoriser la rémunération au mérite. On en parle au 01 45 24 7000. Le standard ouvre à l'instant.
France Inter. La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guy Dufay, va donc déposer deux plaintes pour incitation à la haine raciale contre des élus du groupe Rassemblement National à la région. En pleine séance hier, l'un d'entre eux notamment a utilisé un mot clairement issu du vocabulaire nazi, ce qui semble bien loin de la stratégie de la cravate, un pensée développée ces dernières années par le parti de Marine Le Pen en quête permanente de respectabilité, surtout à deux mois des élections européennes. Bonsoir Mathilde Dansker.
Bonsoir.
Rappelez-nous d'abord précisément ce qu'il s'est passé hier en séance.
Alors ça commence dans la matinée, en pleine séance. Donc les élus du Rassemblement National brandissent des pancartes avec la phrase « violeurs étrangers dehors ». C'est en fait un soutien à des militantes identitaires arrêtées dimanche alors qu'elles défilaient avec le même message dans les rues de Besançon. Deuxième acte, cette fois dans l'après-midi, l'élu Thomas Lutz prononce le mot Untermensch, son micro est coupé à ce moment-là, mais il parle suffisamment fort pour qu'on l'entende dans l'Assemblée. C'est un terme, vous l'avez dit, utilisé par les nazis pour désigner les sous-hommes. Thomas Lutz envoie ensuite un communiqué dans la soirée. Il assure que le mot qualifiait le statut des élus de l'opposition et regrette, je cite, « une utilisation inadéquate et inappropriée ».
Voilà pour les faits hier, mais la polémique rebondit donc aujourd'hui avec ses plaintes et l'absence, Mathilde, de réaction du RN.
Oui, deux plaintes donc, une pour chaque événement. Il fallait le faire pour Marguit Dufay, c'est la présidente socialiste de la région.
Il faut marquer le coup parce qu'il y a, au nom de la liberté d'expression, franchement, il y a au sein de cette formation politique une capacité à dire mais des choses qui sont crûment de l'incitation à la haine. Ils n'ont que ça à la bouche. Ici, dans notre région, c'est vraiment la lutte contre les immigrés qui est leur focale. Il n'y a que ça qui compte. Et du coup, avec des débordements que je ne peux pas laisser passer.
Et pour ce qui est de l'utilisation du mot Untermensch, c'était glaçant, dit-elle. Nous ne sommes pas une assemblée nazie. Alors, on n'a pas réussi à joindre Julien Odoul, le président du groupe RN à la région. Mais il indique à nos collègues de France Info que les mots sur les pancartes ne visent pas tous les étrangers. Et en ce qui concerne Thomas Lutz, il n'a pas été suspendu par le RN. Ses propos sont regrettables et il a été rappelé à l'ordre, assure Julien Odoul.
Mathilde Ansker, service politique de France Inter. Merci. Ils étaient 2000 d'après le chiffre communiqué par la mairie de Viry-Châtillon en Essonne cet après-midi. 2000 venus participer à la marche blanche en la mémoire de Chemseddine, cet adolescent de 15 ans battu à mort par 4 personnes la semaine dernière à la sortie de son collège. Rassemblement entre solidarité, tristesse et colère, Willy Moreau.
En silence, la foule progresse lentement vers le stade de rugby. Des larmes cachées par des lunettes de soleil. Plus d'une semaine après, l'émotion est toujours aussi forte.
C'est trop jeune pour partir.
Coralie travaille à la ville de Viry-Châtillon.
Je ne sais pas vraiment s'il y a de solution. On dirait que c'est un phénomène de mode, quoi. J'espère que justice sera faite pour ça.
Justice pour Chemseddine, peut-on lire sur des t-shirts blancs. 4 jeunes ont été arrêtés, mis en examen, incarcérés. Un bon début pour Sabine, mère d'une collégienne. Mais le problème est bien plus profond, selon elle.
qu'on entend de plus en plus de violences entre jeunes. Les réseaux sociaux jouent aussi le rôle, mais il faut que les parents soient vigilants. En tant que parent, moi, j'essaie d'être vigilante, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir tout le temps. Je ne sais pas, il faut trouver quelque chose pour que ça s'arrête, en tout cas.
Pour le maire Jean-Marie Villain, il faut aller encore plus loin, se saisir du problème avant l'adolescence.
Dès la maternelle, il faut apprendre aux jeunes enfants les valeurs, le fait qu'un garçon, une fille, c'est au moins aussi bien qu'un garçon, et que les uns et les autres, on doit se respecter.
Message relayé également dans une lettre.
Je prône la paix, la compréhension mutuelle et l'empathie.
Une lettre lue en public de la mère de Chemseddine. Trop ébranlée, elle n'était pas présente cet après-midi.
Un reportage de Willy Moreau à Viry-Châtillon pour France Inter. 4 jeunes hommes, dont 3 mineurs, sont mis en examen pour assassinat dans cette affaire.
Des menaces crédibles et réelles.
Oui, voilà comment la Maison-Blanche qualifie ce soir l'attitude de l'Iran qui menace en effet d'attaquer Israël dans les prochains jours en représailles à la frappe meurtrière contre l'ambassade iranienne en Syrie. C'était le 1er avril, frappe qu'Israël se défend d'avoir menée. De nouvelles inquiétudes quant à un embrasement global dans la région régulière depuis l'attaque du Hamas en Israël. Le Hamas et deux autres mouvements islamistes sanctionnés aujourd'hui par l'Union européenne pour, je cite, des violences sexuelles généralisées utilisées comme armes de guerre le 7 octobre. Quand du côté diplomatique, les initiatives se multiplient, comme celle du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en tournée européenne aujourd'hui pour porter la reconnaissance d'un État palestinien, condition indispensable à la paix, selon lui. À Madrid, la correspondance de Mathieu de Taillac.
Pedro Sanchez accélère après les déclarations sur place en novembre dernier par lesquelles il s'engageait à reconnaître la Palestine, après la signature d'un document commun avec Malte, la Slovénie et l'Irlande, place aux discussions dans les capitales. Le chef du gouvernement espagnol était ce matin à Oslo où il a rencontré son homologue norvégien.
Il est temps de passer des paroles aux actes. La reconnaissance de l'État palestinien et la reconnaissance mutuelle entre Israël et la Palestine sont des éléments clés. La gravité de la situation demande des actions courageuses de la communauté internationale. Nous ne pouvons plus nous permettre de nouvelles violences et de nouvelles morts de civils innocents. L'Espagne et moi-même, nous nous sommes engagés publiquement à reconnaître la Palestine en tant qu'État le plus tôt possible. L'Espagne soutiendra aussi l'entrée de la Palestine aux Nations Unies en tant que membre de plein droit.
Après la Norvège, l'Irlande, et puis retour à Madrid. Sanchez y recevra lundi le Premier ministre portugais. Il faut maintenant convaincre le conservateur Luis Montenegro de soutenir à son tour la reconnaissance de la Palestine.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Inter. Prière de ne pas donner la parole au parti. La junte militaire au pouvoir au Mali donne des ordres aux journalistes aujourd'hui en leur interdisant de donner la parole aux personnalités politiques ou de couvrir leurs actions. Partis politiques dont les activités ont déjà été suspendues hier par la junte. On y revient dans le journal de 19h. Les journalistes qui s'inquiètent aussi en Italie, ce n'est qu'un projet pour le moment, mais un sénateur du parti de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, propose un amendement sur un projet de loi sur la diffamation. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Rome. Expliquez-nous, Bruno, l'amendement prévoit de la prison ferme pour les auteurs de diffamation.
Qui est responsable de manière répétée et coordonnée de la diffamation d'une personne par voie de presse risque jusqu'à 3 ans de prison et c'est 4 ans et demi s'il le fait en sachant que la personne est innocente. Voilà l'amendement. Menacés de prison, les auteurs de diffamation, ça existait dans la loi italienne après la guerre, mais la Cour constitutionnelle, estimant que cela menaçait la liberté de penser, avait jugé la mesure inconstitutionnelle en 2021. Le sénateur prend le chemin inverse avec cet amendement. Alors il est possible qu'à la fin il ne soit jamais adopté. Forza Italia, le parti de feu Berlusconi, qui joue de plus en plus un rôle de modérateur au sein de la majorité, se dit opposé à la mesure. Mais le message est passé. Déjà cette semaine, le gouvernement a fait changer les règles au sein de la RAI sur le temps de parole pour les européennes, se libérant de la place pour la communication institutionnelle. Si en Europe, depuis son élection, Giorgia Meloni envoie des signes de modération, en Italie, par touches successives depuis un an et demi, une partie de sa majorité envoie des signes inverses.
Bruno Duvic en direct de Rome pour France Inter.
Il est 18h10, c'est l'heure de la dictée.
Et pardon pour celles et ceux à qui ça rappelle de mauvais souvenirs, mais à l'occasion du Festival du Livre de Paris qui s'ouvre aujourd'hui. 3000 personnes ont participé à une dictée géante en plein air sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. La grande dictée des Jeux, année olympique et paralympique oblige. D'ailleurs, l'orthographe, comme le sport, est affaire d'entraînement, Laurent Kramer.
Et parfois des années de préparation.
La dictée de Mérimée, vous la connaissez, vous ? Vous devriez la faire. Hein.
Passionnés d'orthographe, Jacqueline et Micheline ont deux méthodes bien distinctes pour réussir une dictée.
Il faut être concentré, c'est tout.
Décontraction.
Et là, on se plante.
Son démarrage avait été d'une médiocrité affligeante.
Moi, je dis, même si on n'est pas bon en orthographe, on peut le faire.
L'une, 19 ans, est venue tester son niveau d'orthographe.
Je trouve ça drôle de faire une dictée en plein milieu avec la Tour Eiffel juste à côté.
On finit par progresser. On peut toujours progresser à tout âge.
Ancien prof de maths, Lionel Mauroir s'entraîne toutes les semaines.
J'ai commencé par Bernard Pivot en 85. Il y a 40 ans, j'ai commencé comme très mauvais. Je faisais une dictée par an. Où les deux dernières, j'étais en finale.
Elle s'était laissée.
Mais moi, je les trouve exceptionnels, les gens là qui sont en face de nous.
Théo Curin, le champion de natation handisport, est venu saluer cette olympiade culturelle.
Il faut avoir de la discipline, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours un peu bosser et jamais rester sur ses acquis.
Pas de podium ni de classement sur cette dictée des Jeux, l'écrivain David Funkinos a écrit un texte pour l'occasion.
Faire des fautes, c'est extrêmement plaisant, je trouve. Moi, ce qui me plaît dans l'orthographe, c'est que ça soit quelque chose d'assez difficile. C'est ce qui nous plaît, c'est ludique. Il y a certaines fautes qui restent comme ça, gravées en nous, qu'on n'arrive pas vraiment à... Mais il faut les accepter. Je crois qu'il faut vivre avec ses fautes comme on vivrait avec ses défauts, d'une certaine manière.
Un reportage signé Laurent Kramer. Et si vous aussi, vous voulez vivre avec vos fautes et vous entraîner, cette grande dictée des Jeux est diffusée sur France 5 mercredi soir. Les Jeux Olympiques qui démarreront dans 105 jours, le 26 juillet, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris. Et pour certains, les oreilles aussi, parce que le plus grand événement sportif du monde sera à suivre évidemment sur France Inter. Et ce soir, on vous dévoile le dispositif avec notre invitée Claire.
Bonsoir Nathalie Yanetta.
Bonsoir Claire.
Directrice des sports de Radio France. France Inter va mettre les petits plats dans les grands pour ces Jeux, matin, midi et soir. On commence par le petit-déj peut-être, le 6-9.
Oui, parce que les Jeux, c'est plus qu'un événement sportif, Claire. Vous savez, c'est un objet d'actualité totale. Quand une ville organise les Jeux Olympiques et Paralympiques, en fait, elle devient le centre du monde. Tout est passé au crible. Les médias nationaux et internationaux s'intéressent à l'organisation, la sécurité, les transports, les animations culturelles. Bien sûr, les exploits sportifs et les personnalités qui vont sûrement nous éblouir, nous bouleverser tout au long de ces 15 jours. C'est tout ça, les Jeux, avec des enjeux économiques, géopolitiques, sociaux, sociétaux. Rien n'échappera aux auditeurs de France Inter et il y aura des rendez-vous tous les matins. Par exemple, l'étonnante histoire des Jeux, ça c'est signé Laetitia Bernard. Il y a celles et ceux que vous verrez pas pendant les Jeux, mais sans qui les Jeux ne se feraient pas et les athlètes ne seraient rien. Ça c'est l'ombre dans l'ombre et c'est une série signée Clara Le Coq-Réal, elle vous invitera à les découvrir. On ira aussi, dans les oreilles des champions. Figurez-vous que Frédéric Pommier s'est mis en tête dans sa playlist d'aller demander aux championnes et aux champions ce qu'ils mettaient dans leur casque avant une finale ou une épreuve. Et puis tous les matins, une plume va se déposer sur ces Jeux. Celle du génial François-Henri Désérable. C'est un formidable écrivain, mais c'est un amoureux fou du sport.
Sacrée matinée. Après, il y aura à la mi-journée, le 13h30. Quel menu là ?
7 jours sur 7, en direct du Club France, 30 minutes sur et autour des Jeux avec Jérôme Cadet qui va éclairer les auditeurs, avec notamment nos consultants, on y viendra tout à l'heure pour analyser la matinée, puis surtout prendre la mesure de ce qui nous attend dans l'après-midi.
C'est quoi le Club France en fait ?
Ah, le Club France, oui, c'est la maison des athlètes français. En fait, tous les jours, les médaillés et les pauvres malheureux aussi, ceux qui n'auront pas de médaille, ont rendez-vous. C'est à la Villette, c'est ouvert au public aussi, ça sera un endroit populaire comme une grande fan zone en fait.
Et c'est là que vous serez, vous, pour le 18-20 tous les soirs aussi.
Ouais, ça c'est une grande fierté de pouvoir proposer auditeurs nombreux de l'Esprit Sport du dimanche un rendez-vous tous les jours, y compris à ceux qui sont attachés à votre 18-20, ma chère Claire. On leur proposera un Esprit Sport olympique, une bande évidemment, mon partenaire du dimanche Claude Askolovitch sera là. Quentin lui, parce que ça c'est la touche Inter et que même pendant les Jeux, pas question de se prendre au sérieux. Marie Bochet aussi sera là tous les soirs, c'est une championne multimétaillée, elle est surtout membre de la commission des athlètes de Paris 2024, avec elle ça sera, allez, comment dire, le PEPS, engagements, ce qu'il faut mettre pour aller décrocher de l'or. Ajera Mohamed, elle nous fera vivre les Jeux au plus près du 93 avec les habitants, vous savez, ceux à qui on a tant promis un territoire transformé grâce à l'événement. Et puis parce que les Jeux, les champions, c'est romanesque, bah, l'écrivain Mathieu Palin, auteur du fameux Ne t'arrête pas de courir, sera également à nos côtés tous les soirs pour recevoir au Club France les héroïnes et les héros du jour.
Alors, deux sacrés rendez-vous et puis du beau monde, quoi. J'ai bien compris.
Alors oui, parce que personne ne comprend et ne raconte mieux les Jeux que ceux qui les ont vécus. Une team de consultants sera partout parce qu'ils savent transformer l'expérience en expertise. C'est grâce à eux qu'on va connaître les exploits, les comprendre, les échecs, les doutes. Ils seront 15 en tout, parmi eux 8 médaillés olympiques, dont 7 en or, ma chère Claire. Jean Galfione en or pour l'athlé, par exemple. Vous en souvenez, c'était à Atlanta. Jean-François Lamour, il en a 2, lui, des médailles d'or. C'était au sabre et c'était à Los Angeles et à Séoul. Stravius, lui, c'était de l'or et c'était à Londres en natation. Denis Gargaud, de l'or en canoë à Rio. Thierry Rey, de l'or toujours en judo à Moscou. Arnaud Josserand, de l'or en volley à Tokyo. Voilà, j'en oublie plein, évidemment, notamment pour les sports co. On a hâte d'y être.
Impressionnant. Merci beaucoup, Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France. Et puis, évidemment, d'ici là, l'esprit sport, hein, tous les dimanches, après le journal de 13h.
Dimanche, on sera avec le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur.
Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup.
Et l'actualité sportive avant les Jeux ce soir, c'est aussi le basket. Le basket est cette première. Depuis 20 ans, il y aura une équipe française en finale de l'Euroleague. Les joueuses de Villeneuve-d'Ascq ont remporté leur demi-finale cet après-midi face à Prague, 84 à 78. Elles affronteront un club turc, soit Fenerbahçe, les tenantes du titre, soit Mersin, où se joue ce Final Four. La finale, ce sera dimanche. En tennis, les quarts de finale du tournoi de Monte-Carlo. Yannick Sinner, l'Italien, homme fort du moment, s'est qualifié en battant Holger Rune cet après-midi en 2-7. Novak Djokovic joue en ce moment face à Alex de Minaur. Il a remporté le premier set et mène 5-4 dans le second. On attend aussi Hugo Humbert, dernier français en lice. Il affronte Casper Ruud ce soir. Enfin, c'est parti pour les vacances de printemps dans la zone A, c'est-à-dire les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Vacances qui commencent sous le soleil. On va le voir dans une minute avec la météo d'Élodie Calac. Mais qu'est-ce qu'on écoute sur la route des vacances, à part France Inter? Bien sûr, c'est Mathieu Culeron qui nous le dit. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre spécialiste musique, vous nous parlez chaque semaine des titres les plus populaires du moment. Et après 2 semaines emportées par la tornade Beyoncé, on revient aux fondamentaux en France, en tout cas, Mathieu.
Oui, alors que l'on constate un fléchissement du rap aux États-Unis, en France, le mouvement reste très fort. Dans le top album français sur 50 albums, plus de 30 restent des albums de rap. C'est le style le plus populaire en France et de loin. Et cette semaine, il y a PLK avec Chambre 140 Part 3, PLK abréviation pour Polak, référence aux origines de Mathieu Pruski, rappeur de 26 ans qui se classe à la 2e place du top album, notamment grâce à ce titre Faux Pas avec un certain Jules en invité.
Je suis hal comme le père de Malcolm, solidaire comme un frère de Dalton. Cette année, j'ai pas sorti d'album, j'ai fait plein de sons, mais j'ai tout gardé pour ma pomme.
Voilà, PLK juste derrière Beyoncé, donc dans le top album français, où l'on trouve aussi, Mathieu, un autre rappeur habitué hein, des duos des charts.
Oui, et ce rappeur, c'est Wé Renoir, présent 3 fois dans le top 50, à la 39e place, la 48e place et la 3e place avec son album Pyramide. Wé Renoir, qui est désormais une valeur sûre du rap. Il faut dire qu'il a commencé la discipline à 14 ans et le voici donc à maturité avec ce disque qui contient des invités de luxe, Damso, SDM, Aya Nakamura, Hamza, SCH ou encore Maes. Cet album qui cartonne avec ce titre Pyramide, écouté plus de 24 millions de fois sur Spotify.
Je veux crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts. Qui con, on dit sois proche de tes ennemis, mais faut garder les bons. Je mets l'orgueil de côté.
Pyramide de Wé Renoir avec Damso. Merci Mathieu Culeron, PLK et Renoir qui seront d'ailleurs tous les deux au printemps de Bourges dans 2 semaines et il reste des places.
Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end ensoleillé.
Merci, à vous aussi.